Si vous voulez me suivre, on va aller dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, les versets 14 à 20. Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 20. Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que le temps de la moisson de la terre est mûr. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. Et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante, et lui dit: Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en son mur. Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux sur l'espace de 1600 stades. Alors, on avait donné comme titre à ce passage le commencement de la moisson, le commencement de la fin du monde, c'est-à-dire la moisson et la vendange. Alors, on avait vu que la semaine dernière, on avait commencé à étudier le texte. On avait vu le premier, le deuxième point. On était rendu au troisième point. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder, on va reviser rapidement les choses qu'on a vues jusqu'ici, de manière à ce qu'on puisse entreprendre et développer le troisième point pour terminer le chapitre 14 aujourd'hui. Alors, on avait vu que les trois points étaient les suivants. Le premier, on avait vu que la fin est divinement commandée dans le verset 14. On avait aussi regardé que le rassemblement final des élus est complété au verset 15 et 16. Et on avait également vu que le jugement final des méchants est concrétisé dans les versets 17 à 20. Il est nécessaire, je pense, de rappeler que les versets, que pas les versets, mais les chapitres 13 et 14 du livre de l'Apocalypse sont intimement liés, font partie, sont un tout. On parle dans le chapitre 13, on parle de l'instauration, l'installation du royaume de l'Antichrist au moyen de deux bêtes. Une qui est de nature politique, qui veut établir le gouvernement mondial, et l'autre qui est de nature religieuse, qui veut, elle, établir la religion mondiale. Et quand on regarde le chapitre 13 dans son ensemble, on est pris de vertige un peu. La description est vraiment effrayante parce que on se rend compte que le texte nous dit que l'Antichrist, les saints vont être vaincus. Alors bien sûr, c'est rien pour encourager les saints, les croyants, de se faire dire que lorsque la bête de nature politique et religieuse va combattre contre les saints, qu'ils vont les vaincre. Alors, on pourrait parler, si on avait à résumer le chapitre 13, on pourrait dire que le chapitre 13, c'est le point de vue des ennemis de Dieu. Autrement dit, eux, comment ils se perçoivent, comment ils voient le développement de la volonté d'établir ce fameux royaume de l'Antichrist sur la terre. Alors bien sûr, quand on lit ça, il peut y avoir un sentiment qui vient nous chercher, comme on dit, on se rend compte qu'on est vaincu. Donc, à quelque part, ça peut amener un sentiment de désespoir et de découragement. Cependant, dans le même chapitre, Dieu veut rappeler à tous les élus de toutes les époques qu'il a décrété dans l'éternité, tous les élus, il a voulu leur montrer leur finalité, leurs endroits où ils vont vivre. Le Seigneur a voulu montrer aux siens que tous les élus, sans exception, seront présents au ciel. Ça, c'est l'idée principale du chapitre 13. Mais comme on a dit que les deux chapitres vont ensemble, dans le chapitre 14, on nous parle du même événement, l'instauration ou l'installation du royaume de l'Antichrist sur la terre, mais cette fois, dans la perspective de Dieu, dans le point de vue de Dieu. Alors Dieu, lui, veut que son peuple sache que le royaume de l'Antichrist est voué à l'échec et à la destruction totale. Dieu vient rassurer les siens qui sont encore sur la terre, qu'on appelle l'Église militante, parce qu'ils sont encore en lutte, sont encore en combat. Et il veut leur rappeler que l'agneau, qui est Jésus-Christ, règne dans la gloire avec l'Église, qu'on appelle l'Église triomphante, parce que c'est celle qui est déjà rendu au ciel et qui règne avec Jésus-Christ. Alors, cette Église triomphante-là, le Seigneur veut qu'on voit dans le chapitre 14, qu'elle jubile, dans le sens qu'elle est déjà dans les chants, dans les cantiques, les louanges, la félicité éternelle. Et le Seigneur vient rappeler encore une fois l'idée que tous les élus, sans exception, seront présents. Et dans la section qu'on est en train d'étudier cette semaine, qu'on a commencé la semaine dernière, les versets 14 à 20, le Seigneur veut nous montrer la fin du monde. Et il veut qu'on voit clairement qu'il y a deux aspects à cette fin du monde-là. Il y a d'abord le rassemblement des élus. Autrement dit, Dieu va enlever les croyants de la terre au moment où il va décider de venir pour juger les méchants de la terre. Il va avoir enlevé son Église avant. On voit que le temps correspond, c'est le temps de l'enlèvement correspond avec le temps du jugement. Très important, c'est ce qui est une distinction très importante de celle qui est présentée, par exemple, par les dispensationalistes. Alors, ce qu'on voit dans le 14 à 20, c'est que le Seigneur nous montre la fin du monde et qu'il y a un double aspect. D'abord, le rassemblement final et complet des élus. Autrement dit, on parle souvent que le Seigneur a comparé son Église à une bâtisse. Il dit « Je bâtirai mon Église ». Mais quand la dernière pierre vivante va être ajoutée, l'Église va être terminée. Et quand l'Église est terminée, on parle de l'enlèvement de tous les croyants de la terre. Là, ça va être la deuxième étape, l'autre aspect qui va être celui du jugement final des méchants et aussi leur destinée éternelle. Qu'est-ce qui va leur arriver? Alors, on revise rapidement ce qu'on avait vu. On va relire le verset 14 et on va faire quelques petits commentaires très rapides sur ce qu'on a vu amener jusqu'ici. Alors, on lit le verset 14, on se souvient que le premier point, c'était la fin est divinement commandée. Autrement dit, c'est Dieu qui commande que la fin, le moment de la fin est arrivé. Alors, on voit dans le verset 14, ça dit, « Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. » Alors, on avait remarqué dans la leçon précédente que le langage qui est utilisé nous indique qu'il s'agit du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est un commandement. Alors, la nuée blanche, on avait rappelé que c'est un commandement qui est glorieux parce que dans d'autres versets, dans Matthieu 24, Acte 10, Matthieu 17. On parle souvent, on fait le lien entre le nuage blanc et Jésus-Christ. Et c'est très important de saisir qu'ici, on parle de Christ. Alors, c'est un commandement aussi qui nous présentait une ressemblance humaine, parce que ça dit, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme. Alors ici, on avait mentionné dans la semaine dernière que Jean avait très bien connu Jésus sur la terre pendant le ministère public de Jésus-Christ pendant 3 ans. Et ici, il voit un autre aspect du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Autrement dit, sur la terre, il voyait Jésus-Christ homme, surtout. Tandis que là, il voit le même personnage, mais glorifié, Jésus-Christ glorifié. Alors, c'est pour ça qu'il dit qu'il ressemblait à un Fils de l'homme. Ça ressemblait à un Fils de l'homme, mais il y a comme des dimensions que Jean n'avait pas vues sur la terre, qu'il voit maintenant. Alors, c'est ça qui est l'idée du Fils de l'homme. Et on avait vu aussi que c'était fort probablement Jésus-Christ lui-même à cause du fait qu'il avait sur la tête une couronne d'or. Et on avait fait une distinction entre deux mots grecs, diadéma et stéphanos. Le mot diadéma vient du mot diadème, est une couronne qui est portée par les rois et les dirigeants de la terre. Ici, c'est vraiment stéphanos. C'est vraiment la couronne du vainqueur, telle que celle qui était donnée au vainqueur dans les Jeux olympiques. Alors, Stéphanos, c'est la couronne dont Jésus-Christ a sur la tête et qui représente le fait qu'il soit la victoire finale, qu'il soit déjà en possession de la victoire finale. Et le texte nous parle qu'elle est faite d'or impérissable. Donc, à quelque part, sa victoire est vraiment complète, totale, définitive, et elle est précieuse aussi. Donc, Christ est le vainqueur. Cette couronne royale est le symbole de la domination souveraine et de la victoire finale de Jésus-Christ. Donc, Jésus est le grand roi qui vient établir le droit et la justice sur la terre. Et on voit aussi une autre caractéristique, ayant à sa main une faux tranchante. Donc la couronne et la faux, on sait que souvent on utilise la grande faucheuse comme image pour parler de la mort. Alors ici, quand on parle de la faux, bien sûr on est en train de parler de dire que Jésus va récolter tous les véritables croyants et les enlever de la terre avant de procéder à la deuxième étape qui est celle du jugement des méchants. Alors, on va relire également le deuxième point, les versets 15 et 16, et faire quelques commentaires pour se rendre jusqu'où on était rendu la semaine dernière. Versets 15 et 16, ça dit « Et un autre ange sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » On se souvient dans les passages du Nouveau Testament, là où le Seigneur Jésus avait dit qu'il bâtirait son Église. Bien sûr, quand on construit quelque chose, peu importe ce qu'on construit, il arrive un moment où ce qu'on a construit est terminé. Alors, quand que la construction est terminée, ici, il vient nous dire que il avait déjà dit dans Matthieu 16, par exemple, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » On avait vu aussi les versets de 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, qui comparent les croyants à des pierres vivantes. Et on avait également regardé le passage de Matthieu 24 où il nous rappelait que « Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. » Et après ça, à partir du verset 21, jusqu'au verset 31. Là, on parle de la description de la grande affliction. Et on parle, ce qui est important, c'est de faire un lien aussi avec le verset 30 où il dit « Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande victoire. » Et ça dit qu'il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette. Et ils, les anges, ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Alors vraiment, la double récolte, c'est important. On avait vu que les commentateurs, beaucoup de commentateurs conservateurs s'entendent sur le fait qu'ils voient une double récolte. La récolte d'abord des élus, des véritables croyants, Jésus les enlève, et ensuite, il s'est pas mentionné le temps qu'il va y avoir entre le moment où les élus sont enlevés et le moment où Jésus va faire le jugement des méchants, mais on sait que c'est très proche parce qu'il n'y a pas de mention de temps de mentionner. Alors, juste pour rappeler, par exemple, le commentateur et pasteur Joel Beakey avait dit, juste pour reviser un peu, il dit « Voilà donc l'image de deux récoltes, d'une récolte de blé et d'un foulage de raisin. Et les deux choses sont tout à fait distinctes et séparées. Le blé est récolté en premier avant que les raisins ne soient foulés. » Donc, on avait regardé la semaine dernière aussi que c'est souvent la méthode que Dieu utilise dans les Saintes Écritures. Par exemple, on a l'idée du déluge. Quand le Seigneur a voulu, il a demandé à Noé, à sa famille, les 8 personnes d'entrer dans l'arche. Et le jugement est venu après. Et la même chose qu'on peut avec Sodome et Gomorre. Quand le Seigneur a voulu juger Sodome et Gomorre, il a commencé par faire retirer Lot et sa femme et ses deux filles. On sait que sa femme, ça n'a pas fonctionné parce qu'elle a désobéi. Mais il reste que Dieu, avant de procéder au jugement des méchants, fait toujours enlève les véritables croyants avant. Alors, c'est pas une façon nouvelle, c'est une façon... Et il dit qu'à la fin des temps, ça va être la même chose. Il va y avoir une récolte double. La première récolte, ça va être le rassemblement des élus de tous les temps. Il va venir un temps où, quand le nombre va être complet, ça va être terminé. Il va les enlever. Et ensuite, il va procéder au jugement final des méchants. Alors, on était rendu là la semaine dernière. On relit les versets 17 à 20. Et un autre ange sortit du temple, qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. Et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante, et lui dit, « Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux sur l'espace de 1600 stades. Alors, on avait vu dans les versets précédents que le Seigneur avait d'abord procédé à la moisson, c'est-à-dire le rassemblement final des élus. Les pierres vivantes ont été assemblées, l'édifice divin est complété. Ceux qui restent sur la terre sont des incroyants de deux types. Premièrement, il y a les faux croyants, la fausse église apostate, et aussi les hommes qui, dans l'ensemble, ont rejeté Dieu. Et ici, on assiste au fait que l'heure du jugement a sonné. C'est le temps de la vendange. Alors, on utilise vraiment l'image à l'époque du Nouveau Testament. Quand on voulait faire du vin, on rassemblait des raisins, On les mettait dans une cuve et il y avait des gens qui embarquaient dans la cuve et avec leurs pieds, ils foulaient les raisins de manière à ce que le jus finisse par sortir. Et c'était avec le jus du raisin qu'on fabriquait du vin. Alors, c'est vraiment l'idée ici de cette idée, de cette image-là qui était très familière aux gens de cette époque-là. Alors, le verset 17 nous rappelait que, bon, qu'il y avait le pouvoir sur le feu. Alors, l'Église est complétée, l'Évangile a été prêché à toutes les nations. Dieu va souvent intervenir lorsque la méchanceté des hommes est à son comble. Donc, au moment où l'Église va être complétée et enlevée, ça va être accompagné du côté des méchants, la méchanceté va être à son comble. Et le royaume de l'Antichrist va avoir été, on pourrait dire, établi. Alors, on peut aller regarder d'autres passages dans l'Ancien Testament où l'image du jugement des nations est mentionnée et on va faire les liens avec le passage qu'on étudie aujourd'hui. On va aller d'abord dans Joël. Joël chapitre 3, les versets 9 à 17. Alors, je vous lis le passage. « Publiez ceci parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les hommes vaillants. Que tous les gens de guerre s'approchent et qu'ils montent. Forgez de vos royaux des épées et de vos serpes des lances. Et que le faible dise « Je suis fort. Hâtez-vous et venez, toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes hommes vaillants. Que les nations se réveillent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur malice est grande. Des multitudes dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel rugit de Sion, et de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est pour son peuple une retraite et une forteresse pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu qui habite en Sion, la montagne de ma sainteté, et Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Alors, c'est vraiment un passage qui fait référence au jugement des nations, la vallée de Josaphat. Alors, et on utilise encore l'image des raisins dans une cuve qui vont être pressés. Alors, c'est vraiment une image qui est utilisée à plusieurs endroits dans les Écritures. Un autre endroit, c'est dans Isaïe chapitre 63. Les versets 1 à 6. Qui est celui qui vient d'Édom en vêtements rouges, qui vient de Botsra avec des habits éclatants, portant la tête haute dans la plénitude de sa force? C'est moi qui parle avec justice, tout puissant pour sauver. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges et tes habits comme ceux de l'homme qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et parmi les hommes, personne n'était avec moi. Et je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans mon courroux. Leur sang a rejailli sur mes habits, et j'ai souillé tous mes vêtements. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. J'ai regardé, il n'y avait point d'aide, je me suis étonné, et point de soutien. Alors mon bras m'a sauvé, et mon courroux m'a soutenu. J'ai foulé les peuples dans ma colère, et je les ai enivrés dans mon courroux, et j'ai fait couler leur sang sur la terre. Quand on regarde le verset 19, on voit l'idée encore là, on a parlé de deux récoltes, on voit ici la deuxième récolte, mais un c'était le blé, l'autre c'est les raisins. Verset 19, ça dit, « Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. » Alors, le pasteur et commentateur William Hendrickson résume de façon éloquente les versets 17 à 20 pour décrire le jugement et nous fait remarquer la nécessité d'interpréter ce passage symboliquement. Voici ce qu'il dit, je le cite et je vous lis la citation. Deux anges en sont chargés. Le premier sort du temple où il a reçu les ordres du Dieu saint. Dans sa main, il tient lui aussi une faucille tranchante. Un autre ange vient de l'autel, celui des parfums d'où les prières de tous les chrétiens sont montées vers le trône. Le jugement des méchants est la réponse finale de Dieu à ses prières. Le deuxième ange crie au premier, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » La vigne de la terre représente la foule des hommes méchants et chaque grappe représente un incroyant. De même que les grappes sont foulées aux pieds, pressés et écrasés. De même, les méchants vont être détruits et punis éternellement. La vendange est jetée dans la grande cuve de la colère de Dieu et les grappes sont écrasées. Jean voit un lac de sang s'étendre autour de la cuve. Il est si profond qu'il arrive aux mors des chevaux et il s'étend dans toutes les directions sur une distance de 1600 stades. Alors c'est important de faire le symbolisme, de regarder le nombre et de voir tout le symbolisme qu'il y a à l'intérieur de ça. 4, c'est le nombre dans les Écritures qui est le nombre de l'univers et de la terre. Et on assiste vraiment au jugement des méchants. 10, c'est le nombre de la plénitude. C'est pourquoi 1600, qui équivaut à 4 fois 4 fois 10 fois 10, paraît indiquer le jugement total et définitif des méchants. Et la cuve de la colère de Dieu fut foulée hors de la ville sainte. Chose intéressante à examiner, c'est que on ne peut pas regarder, interpréter ce passage-là littéralement, parce qu'on parle de 1600 stades et que le sang, sur une distance de 1600 stades, le sang monterait jusqu'à la hauteur des morts des chevaux. Alors, quelque part, il faut se souvenir, souvent quand on lit ça, on comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il veut dire par stade. Quand on fouille dans un dictionnaire, on se rend compte que dans le fond, 1600 stades, ça représente 184 000 sur une distance de 184 000. Autrement dit, 300 kilomètres. Hey, c'est une grande distance là, où il y aurait du sang suffisamment en hauteur pour se rendre jusqu'au mort des chevaux. À quelque part, je pense que c'est clair que le 1600 stades est un chiffre symbolique qui veut dire l'ensemble de tous les méchants de la Terre qui vont être présents sur la Terre à ce moment-là. Donc, c'est vraiment le chiffre 4 qui représente les quatre coins de la Terre. 10, c'est le chiffre de la plénitude. Donc, 4 fois 4, ça fait 16. Puis, 1600, il y a 2 zéros. Donc, multiplié par 10. 10, c'est la plénitude. 10, c'est encore la plénitude. Donc, ça l'indiquerait que le Seigneur va juger l'ensemble de tous les méchants de la terre, sans exception. Alors, quand on regarde le verset 20, on voit que l'ampleur et l'étendue du jugement des païens est vraiment très grand. Et ça dit, « Et la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux sur l'espace de 1600 stades. » Là, on vient de mentionner que c'est... On comprend que les incroyants vont être jugés à l'extérieur de la vraie ville sainte qui est composée de croyants. On sait que la ville sainte, la Jérusalem d'en haut, c'est l'ensemble des croyants. Jugés hors, ça veut dire que les méchants ne seront pas dans la Jérusalem céleste. Et la véritable Jérusalem céleste et ses habitants, qui sont en réalité ses habitants, est protégée de toute corruption et de toute souffrance. C'est pour ça que ça dit qu'ils seront jugés hors de la ville. Alors l'image, bien entendu, est saisissante et vient illustrer la gravité et la profondeur et l'étendue de la colère de Dieu. Parce que on voit dans le verset, dans le chapitre 10, et dans le verset 31 du livre d'Hébreux, Hébreux 10, 31, qui vient nous rappeler cette vérité-là dont on parle dans le passage qu'on étudie aujourd'hui. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On sait qu'il se produit actuellement, on est, je pense, dans les temps de la fin. Il y a beaucoup de mal qui se produit sur la terre à un degré inimaginable. On a peine à imaginer que des hommes puissent faire de pareilles choses. Et le Seigneur dit que il attend toujours que le mal soit rendu à son comble. Et il y a des choses, il faut qu'il ait été faites, l'évangile annoncé et toutes ces choses-là. Mais quand l'Église est complétée, là c'est terminé, le Seigneur passe au jugement. Et quand on dit que c'est une chose terrible, quand on parle sur une distance de 300 kilomètres, qu'il y aurait suffisamment de ça pour monter, alors je pense que ça vient parler de l'idée que la colère de Dieu va être terrible et que les êtres humains qui sont méchants, qui ne se seront pas repentis, qui ne seront pas sauvés, vont subir quelque chose d'effroyable. Ça va être vraiment terrifiant. Alors, c'est une chose importante à se souvenir. Beaucoup de personnes actuellement croient qu'on est dans les temps qui précèdent le retour du Seigneur. Alors, ça veut dire que quand la dernière pierre, il va y avoir un moment là dans l'histoire de l'Église où le Seigneur va ajouter sa dernière pierre vivante, et c'est là que tout ce qui s'appelle véritable croyant va être enlevé de la terre. Et là, on passe à la deuxième récolte. Donc, la première, c'était le blé qui va être rassemblé. Et la deuxième, c'est vraiment les raisins, parce que ça dit qu'ils sont mûrs, sont vraiment mûrs à cause de leur méchanceté. Et le Seigneur va les juger d'une façon extrêmement sévère, parce que leur destinée éternelle, ça va être l'enfer. Alors, si on regarde l'ensemble du chapitre 14, versets 14 à 20, on peut retirer plusieurs applications pour nous aujourd'hui. J'en vois au moins trois. La première chose à remarquer après avoir étudié le texte, c'est celle de la souveraineté du Seigneur. De remarquer que la souveraineté du Seigneur, le fait qu'il soit le roi et qu'il contrôle de façon absolue toute chose qui se passe sur la terre, il contrôle dans sa souveraineté toute chose. Il contrôle la vie des civilisations. Si on quelqu'un, un historien, regardait l'ensemble de comment les civilisations romaines, grecques, peu importe, le babylonienne, le Seigneur, c'est lui qui détermine quand une civilisation va exister, quelle est son étendue, sa puissance, quelles sont ses limites, quand est-ce qu'elle va arrêter, quand est-ce qu'elle va tomber. On sait que les Romains, par exemple, ont régné pendant plusieurs centaines d'années, mais à un moment donné, ça a été final, ça a arrêté. Alors, le Seigneur est au contrôle de l'ensemble de la vie, comme ça, des civilisations. Aussi, la vie des nations. Le Seigneur nous montre dans les Écritures que n'importe qui a déjà étudié un petit peu, par exemple, l'histoire de l'Europe, il se rend compte que la France n'a pas toujours eu la forme et les limites qu'elle a actuellement. Ça a varié avec l'histoire, les choses ont changé. Alors, la vie des nations, le Seigneur contrôle de façon absolue et souveraine la vie des nations, leur durée, le temps qu'ils vont régner et tout cela, et même leur chef, etc. Et non seulement les civilisations, non seulement les nations, mais aussi la vie des individus. Tous ceux qui sont sur la terre, qui ont passé sur la terre, Dieu règne de façon absolue sur le temps où nous serons sur la terre. Il contrôle la vie des nations et non seulement contrôle la question des individus, des êtres humains, mais il contrôle toute la création dans son ensemble. Les planètes, les étoiles, dans le monde de l'infiniment petit aussi, les atomes, tout. Alors, dès qu'on pense à création, peu importe la facette de la création, on se doit de se rappeler que le Seigneur contrôle toutes ces choses-là de façon absolue. En même temps, il faut voir sa bonté qu'il a envers les hommes. Alors, on sait que dans certaines nations, il se passe des choses terribles. Le Seigneur ne juge pas toujours temporellement et sur la terre les actions méchantes des hommes. Souvent, oui, pas tout le temps. Alors, souvent, les jugements vont être reportés à la fin. Quoique les êtres humains qui vivent continuellement dans la méchanceté finissent aussi par subir des conséquences de leurs actes. Alors, quand on regarde la souveraineté de Dieu dans son ensemble, sur les civilisations, sur les nations, sur la vie des individus et sur la création dans son ensemble, on se rend compte que on peut toujours considérer la bonté de Dieu dans tout cela. Mais aussi la sévérité de Dieu. Il y a un verset dans les Écritures qui dit « Considérez la bonté et la sévérité de Dieu. » Alors, si quelqu'un étudie l'histoire de l'ensemble, l'ensemble de l'histoire, autant les civilisations que les nations que les individus, le Seigneur est bon et parfois exerce sa sévérité. Alors, on voit ça un petit peu dans le texte d'aujourd'hui. Et autre chose que ça nous rappelle concernant la souveraineté de Dieu, c'est que tous les hommes, sans exception, devront lui rendre des comptes. Ça, c'est important parce que quand Dieu commande aux hommes des choses et que les hommes n'obéissent pas, chaque être humain va avoir des comptes à rendre. Des comptes très précis aussi, très, 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 très précis. Alors, le Seigneur va rendre à chacun selon son dû. Donc, la première leçon, c'est vraiment celle de la souveraineté de Dieu. La deuxième leçon, c'est le livre et le passage est un grand réconfort pour les authentiques croyants. de se faire rassurer par le Seigneur lui-même que tous les élus, ceux qui ont cru en leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, seront rassemblés et aucun ne manquera. Alors, c'est mentionné dans le chapitre 13, c'est mentionné dans le chapitre 14 et à bien d'autres endroits dans les Écritures. Quand Dieu choisit un élu, il va le prendre du départ, il va le rendre jusqu'à la fin. Tout ce qui était prévu pour lui va s'accomplir et se réaliser. Alors, quand on dit « aucun ne manquera », on peut lire un verset dans le Nouveau Testament qui nous rappelle cette vérité-là. Hébreux, chapitre 2, les versets 11 à 13. Car tous, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, relèvent d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, en disant, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Alors ici, on parle, c'est Jésus qui parle et dit, j'annoncerai ton nom, mes frères. Il appelle les croyants ses frères. Il dit, j'annoncerai ton nom, mes frères, et je te louerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en lui. Et encore, me voici. Alors, Seigneur, il parle de lui-même. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Tous les élus, ceux que Dieu a donnés à Jésus, lorsque Jésus va se vivre au ciel, il dit, me voici, moi et les enfants. Il n'y en a aucun qui va manquer. Alors ça, c'est un grand réconfort de savoir que peu importe ce que les gouvernements ou les individus peuvent essayer de faire pour faire taire les chrétiens ou pour les museler ou pour n'importe quoi, ça peut marcher à court terme, mais sur le long terme, ça ne marchera pas parce que ils ont un pouvoir uniquement sur le corps des hommes et non pas sur leurs âmes, comme le Seigneur nous le rappelle si souvent dans les Écritures. Donc, la première leçon à retenir du texte, c'est celle de la souveraineté de Dieu. La deuxième, c'est celle du grand réconfort de savoir que tous les élus seront présents au ciel sans exception. Et la troisième, c'est celle d'implorer le Seigneur de mettre des élus sur notre chemin. Actuellement, sur la terre, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs, de chagrins, beaucoup de souffrances. Et le Seigneur nous a donné la charge de l'Évangile et il nous commande de partager l'Évangile autour de nous. Alors, je pense que dans les temps actuels, c'est particulièrement difficile de le faire à cause du fait qu'on ne peut pas se déplacer et on est limité en termes d'heures et tout cela. Mais il reste que le Seigneur nous donne quand même l'ordre de partager l'Évangile autour de nous. Ce qu'on peut faire, nous, comme chrétiens, c'est d'implorer le Seigneur, le prier, de nous donner, de mettre des élus sur notre chemin. Alors, le Seigneur peut organiser les circonstances pour qu'on rencontre les personnes qui sont des élus et qu'on leur partage l'Évangile et que par le partage de l'Évangile, le Saint-Esprit vienne ouvrir le cœur et la compréhension de ces gens-là à leur destinée éternelle. Alors vraiment, le Seigneur veut qu'on annonce son nom, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et je pense aussi que, vu qu'on est dans les temps de la fin où on parle de la récolte du blé et on parle de la vendange du raisin parce qu'ils sont mûrs, je pense que c'est aussi de notre devoir de parler du jugement dernier autour de nous. C'est vraiment quelque chose de... Il y a quelque chose d'apeurant là-dedans, quelque chose de parler, tu sais, de l'enfer. Les gens vont, oh, mais là, ça n'existe pas. Puis là, ils vont sortir toutes sortes de prétextes. Mais dans le fond, nous, quand on croit aux Écritures, les Écritures disent que c'est là que les êtres humains vont se ramasser s'ils ne se sont pas repentis et n'ont pas cru à l'Évangile. Alors, comme la Bible dit, Comment pourront-ils croire si personne ne leur partage l'Évangile? Alors, on peut parler du jugement dernier autour de nous. Et il ne faut jamais oublier que c'est notre mission d'avertir. Alors, on peut demander à Dieu de nous remplir de zèle et de courage. Alors, par sa grâce et pour sa gloire, Amen.